Direct en jeu, la radio insolite. Oh, quel plaisir ce matin d'accueillir un jeune homme. Oui, je peux le dire, un jeune homme, il n'y a pas de problème, qui a quand même 30 ans de pratique professionnelle. Bonjour Grégoire.
Bonjour, bonjour à tous, je suis ravi d'être là.
Ouais. Alors, je dis un jeune homme parce que je suis devant ta photo. On te donne à peine 18 ans des poussières, quoi.
Alors, ma photo, celle que tu dois avoir, n'est pas si récente, j'imagine, parce que je suis un peu moins jeune, quand même. Oui, c'est les comédiens, ils sont un peu cabots sur les bords, certainement. Mais non, c'est surtout que je n'ai pas refait de book depuis une bonne dizaine d'années, voilà.
Oui, on sait qu'un comédien, il garde toujours la jeunesse de l'esprit, il garde toujours le côté un peu coquin, le côté un peu ludique, interactif, etc.
Mais c'est pas faux. J'essaie de garder cette fraîcheur-là dans la pratique de mon métier, de mon art. Voilà, alors, ça c'est vrai en plus.
Alors toi, pour te présenter, je sais pas s'il faut que je dise que tu es auteur ou comédien, ou auteur et comédien, je sais pas du tout comment on peut te présenter.
Oh, c'est compliqué. Je suis les deux de toute façon, indéniablement. Je gagne ma vie en tant qu'auteur et comédien, plus comme comédien je pense. Mais en fait, on est toujours un peu touche-à-tout. Je fais de la mise en scène, je suis même depuis peu directeur ou co-directeur d'un théâtre sur Avignon. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que en fait, je fais toujours, c'est toujours le même métier en deux mots. Mais pour revenir à la question première, quand j'ai commencé, j'avais coutume de dire que j'écrivais par besoin, donc auteur par besoin, et que je jouais par plaisir. Voilà. Et en fait, le plaisir, on le prend dans les deux cas quand même. Voilà.
Juste un truc, le déclic. Moi, j'aime bien savoir quand on fait un peu la genèse. Le déclic, c'est quoi? C'est un spectacle que tu as vu? C'est un artiste que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'une part de toucher par écrit, comment dire, un texte, ou bien de monter sur scène?
Ça a été très. Je crois que ça vient de loin. C'est en plusieurs étapes. Comme beaucoup d'enfants, j'ai découvert la scène parce qu'on en fait un peu à l'école, parce qu'on a un environnement qui peut parfois nous amener voir. Bah moi, c'était mon père que j'ai vu jouer quand j'étais gamin. Ça m'avait fasciné parce qu'il était plutôt très bon. Mais réellement, je le pense encore aujourd'hui. Il n'était pas du tout professionnel. Hein. Il y a eu plein de petits déclics. Et puis j'étais un ado contrarié, soyons clairs, très timide, qui ne savait pas trouver sa place, en deux mots. Et j'ai commencé à découvrir le monde d'abord par le cinéma. C'est voir la vie en grand. Et un jour, je me suis dit, c'est là où je veux être. Alors pas forcément sur l'écran, mais en tout cas, je savais qu'il y avait quelque chose. J'avais un rapport avec le métier artistique et l'interprétation, l'incarnation surtout, et peut-être le côté se raconter sa vie, s'inventer sa vie, etc. Et voir la vie en grand. Enfin voilà. Puis on ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'un ado timide et contrarié à on va dire un mec d'un certain âge un peu plus ou moins épanoui. Et donc, il a fallu gravir les marches une à une, voilà. Et j'ai le hasard de la vie j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont donné envie de commencer à écrire pour le théâtre. Évidemment que j'ai avec mon amour du cinéma, ça m'a amené à faire un peu de rencontrer des gens, puisque j'ai fait un peu de radio, de critique cinéma, et j'ai interviewé également des artistes de théâtre. C'est une addition de rencontres, de propositions, de hasards de la vie qui n'ont fait que conforter mon envie, et je viens pas d'un milieu qui m'a poussé à ça, simplement ça s'est imposé à moi au fil du temps, jusqu'au jour où j'ai dit ça suffit, c'est ça que je veux faire, et je m'organise pour faire ça, voilà, en deux mots, tout simplement.
Tes inspirations, parce que j'ai vu que tu as fait une adaptation quand même de Scapin et de Tartuffe.
Oui, tout à fait.
Tu avais nommé Molière, je crois, c'est ça, je crois.
Oui.
Mon avis, aura peut-être du talent demain.
Et du talent, du succès. J'ai coutume de dire, heureusement pour moi, j'ai eu depuis peu quelques succès qui m'ont fait mentir, mais j'avais coutume de dire que mon plus grand succès en tant qu'auteur, c'était Molière. Voilà. Sur Avignon, on joue Molière, ça marche. Voilà.
D'accord.
Enfin, en
Mais
tout cas, ça marchait.
ouais, mais ton choix, c'était vraiment rester dans le classique ou c'était de sortir un
Ah,
peu
non. Non,
ouais.
non. Ben, là, c'est Molière. En fait, je m'y serais pas attaqué au début parce que je me sentais pas nécessairement légitime. Enfin, j'avais envie de découvrir aussi quand même un petit peu mon univers à moi, quoi, tout simplement, ma patte. Et puis Molière reste un monument. Et d'ailleurs, quand j'ai monté, enfin, adapté Scapin, une des premières réflexions, c'était de me dire, mais faut arrêter de se prendre au sérieux là quand j'entends certains humoristes et autres qui ont inventé l'eau chaude si vous voulez. Mais il y a déjà tout dans Scapin. Il y a même de l'humour de mots. Il y a le comique de situation. Alors évidemment, on n'est pas dans la même rythmique comique qu'aujourd'hui. Mais en revanche, il y a déjà tout. Les ressorts comiques sont déjà là. Enfin donc, faut remettre les choses dans leur contexte et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. Voilà. Mais en revanche, quand je monte Molière, ce qui m'intéresse, c'est de, comment dire, c'est pas de faire ce que faisait Molière. Parce que ça, sur le coup, bon, c'est pas très, bon, je trouve que c'est pas très intéressant, ça a déjà été fait. Donc, là, j'ai à chaque fois adapté, que ce soit Tartuffe ou Scapin, pour trois comédiens ou comédiennes quand il s'agit de Tartuffe, et puis ensuite d'inventer la mise en scène en conséquence, avec des éléments de décor. Il y a de la poésie, il y a beaucoup d'humour, il y a de la musique, enfin voilà, il y a des choses très. Et de la musique plus contemporaine. Mais c'est aussi une manière de rendre hommage pour moi à Molière. C'est pas un classique pour rien. Qui dit classique dit que ça reste toujours très actuel, tout simplement. En fait, c'est pas vieux, c'est actuel. Voilà. Alors c'est une langue un peu plus ancienne, etc. Mais les thèmes, les ressorts sont les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui fait la force de ces textes-là. Et donc il faut être à la hauteur de ça aussi. Enfin, en tout cas, essayer de l'être. Mais surtout ne pas se prendre au sérieux une nouvelle fois. Puis surtout ne pas se croire supérieur à Molière.
D'accord.
Je ne serai jamais un classique et j'en ai conscience.
Ça, c'est
Voilà.
clair. Tu as dit que tu étais co-directeur d'un théâtre à Avignon, c'est lequel?
Alors, c'est le théâtre optimiste, enfin,
D'accord.
théâtre de l'optimiste, petit théâtre de 50 places, que j'ai repris avec deux artistes associés. Et d'ailleurs, j'y présente deux de mes textes cette année. Voilà.
D'accord. Alors, là, on est là pour parler de l'actualité actuelle,
Oh,
c'est-à-dire ton
oui.
spectacle qui s'appelle Stabilité temporaire.
Absolument,
Alors, quand
oui.
j'ai lu le titre, je me suis dit stabilité, logiquement, on espère qu'elle soit durable. Là, non, c'est temporaire. Je me suis dit, tiens, c'est assez original comme truc. Ça sort un peu de l'ordinaire. Allez, dénonce, accuse. Qui a trouvé ce titre?
Alors, en toute franchise, c'est moi. Mais je ne savais pas, c'est en discutant avec ma partenaire et associée, puisqu'elle est associée avec moi sur le théâtre, Pascale Tronche, qui partage la scène donc avec moi. Et c'est un texte que j'ai écrit pour nous deux. Voilà. Et c'est oui, la stabilité temporaire, mais en fait, cette pièce est un condensé de vie. Il y a un vrai regard sur le sens de. Enfin, c'est des thèmes très universels, le destin, l'amour, le deuil, mais c'est une histoire d'amour en fait à l'arrivée, je trouve, mais racontée sous forme d'un thriller ou thriller, je sais pas comment on le prononce, j'ai
Un
jamais su.
thriller, oui, c'est ça, d'ailleurs.
Merci.
Je vois que
Voilà.
tu es bilingue français-anglais, hein.
Oui, oh oui, largement. Donc, il y a une construction tout à fait originale, puisque pas du tout. C'est dans une sorte de désordre chronologique, et c'est un peu comme du cinéma, justement. On assiste à un film avec des personnes qui racontent leur vie, et c'est un condensé de vie. Donc, on passe de moments les plus beaux, les plus
Émouvant.
légers même, à des moments beaucoup plus sombres et dramatique, et tout ça en 1h10, c'est vraiment comment dire, on est à un Luna Park, voilà, émotionnel, voilà. Et
Ouais, ce que j'aime bien aussi dans la présentation du spectacle, c'est qu'on ne sait pas si on est dans un commissariat, si on est au tribunal ou si on est chez un psy.
oui, absolument.
Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est bien. Ce sont des lieux très très proches, les trois,
Mais c'est
enfin bon.
oui, alors non, la pièce, j'espère, n'est pas froide du tout, parce qu'elle parle à tout le monde. Elle fait vraiment appel à nos, enfin, tout le monde peut s'y retrouver dans nos personnages. Le point de départ, allez, le point de départ, c'est comment un simple regard, souvent accompagné d'un sourire, mais déjà un simple regard peut faire basculer une vie.
Ah,
Voilà.
exact.
Voilà. Et comment les situations les plus éphémères ou les choses les plus éphémères peuvent marquer durablement sur le coup. Voilà. Et lorsqu'on est effectivement dans une relation, dans une situation qui est stable, qui paraît stable, ben en fait tout est toujours assez précaire, quoi. Et on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et moi je trouve que c'est la beauté aussi de notre existence, de nos vies, c'est de rester ouvert pour l'imprévu, rester ouais, c'est de Van Damme qui dit aware. Mais bon, là il
J'aime
y a pas de
beaucoup
vent,
les
là il y a pas de vent.
références.
Non mais là il y a pas de ça, mais c'est enfin il y a pas de kung-fu dans la pièce, désolé, c'est pas une pièce d'action. Mais sur le parce que effectivement le parti pris c'était que il y a pas d'unité de lieu, d'espace ni de temps, d'où le désordre chronologique, mais également ce sont des personnages qui viennent raconter l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un film avec une histoire. Grosso modo, hein, et là, ce sont les personnages qui viennent raconter l'histoire à leur manière, selon leur point de vue. Donc, parfois, il y a quelques flashbacks, mais c'est beaucoup de l'ordre du témoignage. C'est pour ça, donc, avec une auto-analyse permanente, et c'est tous les ressorts de l'âme humaine qu'on retrouve là, et qui font que ben, tout le monde se retrouve dans ces personnages, mais il y a un côté assez ludique, parce qu'on s'adresse presque directement au public et pourtant c'est une pièce très intimiste, très 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 personnelle.
Ah bah, je vais y aller, hein. Donc c'est une autobiographie, c'est l'histoire de ta vie, quoi.
Non, pas du tout.
Pas
Non, non, non. Non, mais j'ai révélé déjà un truc tout à l'heure, c'est que la pièce a été écrite pour Pascal Tronche et moi-même. Et en fait, le point de départ, au-delà du sujet qu'on avait établi, enfin que j'avais établi, qui était sur, voilà, je parlais du regard, de l'éphémère, etc. En fait, je me suis amusé à raconter, parce qu'il y a plusieurs couples de toute façon, donc il y a plusieurs personnages. Mais l'idée, c'est que le point de départ, c'était, comment dire, un récit complètement fantasmé et donc inventé de notre relation. Si je veux, voilà. Pascal, elle a des yeux bleus qui,
C'est vrai.
ben, on ne voit que ça
Je
que
suis,
sur
oui, c'est
scène,
vrai. Je
soyons
suis
clairs. Non,
témoin,
non.
c'est vrai.
Oui, mais c'est vrai. Et c'est pas par hasard si la pièce tourne autour du regard. Voilà, en deux mots. Mais il y a un côté de l'ordre du fantasme, mais pas du tout de la vie vécue. Voilà, enfin, d'éléments vécus. Heureusement, c'est la force de la fiction d'inventer les choses plus que de. Mais en inventant les choses, il faut quand même que ça sonne juste, ça sonne vrai. Voilà, c'est toute la gageure de, ben, je dirais, de n'importe quel écrivain.
Alors ce que j'aime bien aussi, c'est non seulement tu es auteur, tu es comédien, tu es directeur, co-directeur de théâtre, mais tu fais aussi de la formation. Alors j'imagine quel type de formation tu dois faire. C'est avec des jeunes, je crois.
Alors, en fait, j'en ai fait beaucoup. Là, j'ai un peu arrêté ces dernières années parce que, tout simplement, j'avais trop de choses et que ça prend énormément de temps de faire de la formation. Et qu'il y a eu un moment où il fallait que je m'arrête pour que je me repose les bonnes questions. La crise du Covid, d'ailleurs, a contribué à cet arrêt aussi. Je dis pas que j'y reviendrai jamais parce que, en fait, ce que je transmets, moi, c'est la passion je fais vraiment un métier passion. Et c'est ce que je transmets le plus. Alors évidemment, avec l'expérience, j'ai un peu plus de bagages, de techniques, de enfin, je suis capable d'accompagner cette passion avec un discours un peu pédagogique, même si la pédagogie n'est pas mon fort non plus. Je me sens plus praticien que théoricien du théâtre. Voilà. Donc, mais ça n'empêche que ça véhicule quand même beaucoup de choses, et notamment l'émotion, que ce soit dans le rire ou dans les larmes. L'important, c'est que ça sonne juste, que ça soit vrai, quoi. Et c'est alors ensuite, il y a une manière de se tenir sur scène et autres. Et oui, je suis content quand même parce qu'il y a des jeunes qui continuent dans cette voie-là et qui sont passés entre mes mains. Ça veut dire quand même que j'ai réussi à transmettre ça aussi. Mais je pense qu'ils l'avaient déjà en eux, en fait. Mais ensuite, quand on a un petit joyau, ben, il faut le polir avant qu'il ne. Donc, j'ai contribué à passer ma ma lime, voilà, un petit peu. Mais je crois qu'on n'a jamais un seul mentor dans ce métier. Heureusement, d'ailleurs.
D'accord.
C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, faut changer de main et il faut découvrir d'autres choses. Les expériences doivent s'accumuler, sinon on s'enferme.
D'accord. C'est quoi quatre filles dans le vent?
Alors, Quatre filles dans le vent, c'est la société qui a été montée pour gérer le théâtre de l'Optimiste que l'on a à Avignon. Et il se trouve que les trois associés, Jean-David Stepler, Pascal Tranche et moi-même, nous
Vous n'êtes pas quatre
n'avons
filles, hein?
non, il n'y en a qu'une parmi nous, mais c'est surtout que nous n'avons que des filles. Nous sommes tous parents et nous n'avons que des filles. C'est quand même amusant.
Ça peut arriver, hein? Il y a
Ça
pas
peut
mal.
arriver. Et en plus, elles sont toutes superbes, ce qui est agréable. Donc, eh ben, on s'est amusé. Comme ce sont nos filles, en tant qu'intermittents, en tant qu'artistes, on n'a pas le droit de gérer une société. Bon, voilà ce que je comprends. Voilà, ce sont nos filles qui sont les responsables, qui ont investi dans la société. Et donc, ben, elles sont quatre, au nombre de quatre, d'où le titre, Quatre filles dans le vent. Puis c'était, là, j'avoue que c'est moi qui ai trouvé le nom de la société. Ça m'amusait le petit clin d'œil, bon, à quatre garçons dans le vent, évidemment. Enfin, bon, voilà.
Et le nom du théâtre, il a été trouvé au hasard, je suppose.
Alors, le théâtre de l'Optimiste, il existait déjà,
Ah,
puisqu'on
d'accord.
a racheté le fonds de commerce. On l'a racheté à quelqu'un qui a déjà d'autres théâtres sur Avignon, David Tesser, qui a le Cabestan, le Grand Pavois, qui a créé aussi, il y a quelques années, l'Alizé. Et c'est un amoureux de la voile, d'où ses noms, voilà, de
Ah,
théâtre.
d'accord, ça y est, j'ai compris.
Voilà.
C'est
Et
pas
l'Optimiste, c'est
optimiste
ce...
sur le
Non,
côté
voilà.
optimiste, mais c'est d'accord.
Mais en revanche, nous, on a viré tout le côté bateau, parce que et même si on n'a pas rajouté le, parce qu'on bah, on aime bien justement que sortir de la facilité, mais on s'est dit, bah nous, on se lance dans l'aventure et il faut être optimiste. Donc enfin voilà, on a gardé le nom. Puis c'est aussi respecter ce qui a été fait par David, qui avait très bien monté le théâtre au préalable, et de la confiance qu'il nous a accordée en nous vendant le fonds de commerce, tout simplement. Donc voilà, on a gardé.
D'accord. Dernière question. Alors, question insolite pour un Avignonnais. Ça représente quoi le Festival d'Avignon pour toi?
Ça représente plusieurs choses. C'est un lieu phénoménal. C'était la Mecque du théâtre quand j'habitais Paris et j'avais encore jamais mis les pieds à Avignon. Je me débattais dans mes premières pièces, et Avignon paraissait c'était une sorte de rêve inaccessible. Voilà. C'est la Mecque du théâtre. C'était vraiment le lieu de découverte, là où les artistes qui font le théâtre ou qui vont le faire se révèlent. Voilà. Et on peut en citer évidemment nombreux. Je trouve qu'aujourd'hui, alors, il y a plusieurs intérêts. Pardon si je suis un peu long dans mes réponses, mais moi qui viens de Paris, avant, je montais mes pièces, elles restaient 3 mois à l'affiche minimum, et on avait le temps pour nous, le temps que le bouche à oreille se crée, que la pièce se joue, donc se peaufine et s'améliore. Et évidemment, si ça marchait, on ne se contentait pas nécessairement des 3 mois prévus et on pouvait revenir à l'affiche après. Bref, quand je suis arrivé dans le sud et en province, eh ben, c'est pas du tout la même économie. On monte une pièce, mais il y a deux représentations dans un théâtre, allez, trois maximum. Et puis ensuite, ben, il faut trouver un autre lieu d'accueil, etc. C'est-à-dire que les pièces n'ont pas le même tempo, la même
D'accord.
temporalité. Et Avignon, ça permet d'avoir 3 semaines, 3 semaines et demie de représentation. Et c'est magique pour un spectacle de trouver sa respiration, son équilibre et ben, se peaufiner, quoi, se polir, comme le joyau dont je parlais tout à l'heure. Et Avignon permet ça. C'est un des rares lieux où on a 3 semaines et demie, sauf si on joue donc dans une grande ville toutes les semaines pendant plusieurs mois. C'est le lieu qui permet ça. Et ça, moi, je trouve ça assez génial. Ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'Avignon est en train de devenir la succursale du théâtre parisien. Maintenant, tout le monde a compris que c'était pas le lieu de la découverte, c'était le lieu où on assoit sa suprématie et on fait du fric, quoi, soyons clairs. Et ça devient une machine à cash avec tous les grands noms. Et j'exhorte, moi, le public, ça va être le seul message que je vais faire passer aujourd'hui, au-delà de ma pièce Stabilité temporaire ou des autres que je présente.
D'accord.
aller dans les petites salles, je parle au public,
Tout à
aller
fait.
découvrir. Quand je dis les petites salles, il y en a c'est pas des salles de 50 places uniquement, ça peut être des salles de 100 places ou 150 places.
Complètement, ouais.
Vous avez des pépites partout, n'arrivez pas en se disant, oh là, je vais aller voir un tel parce que j'ai vu à la télé un tel, un tel. Et vous faites, c'est, avec Internet, c'est facile, on l'utilise nous aussi, on fait sa programmation en amont, on arrive. Il n'y a plus de surprise, notre programme est déjà fait. Mais non, Avignon,
Plus
c'est
que
la
jamais.
rencontre avec les artistes, c'est se laisser séduire par quelqu'un qui vient vous parler de son spectacle, qui vous donne le flyer et qui vous dit venez nous voir. Si on vous donne envie, il faut y aller. Faut pas nous dire ah oh ben non, je serais bienvenu, mais je peux pas parce que j'ai déjà mes billets. C'est terrible pour tout le monde, je trouve.
Non, mais c'est très
Un
frustrant.
peu de curiosité, quoi. Voilà.
On découvre des gens qu'on ne connaît peut-être pas, qui ont un talent extraordinaire, qui demain seront peut-être des références assez conséquentes, mais on peut avoir aussi des rencontres un peu insolites, inattendues et
Ah
passionnantes.
mais c'est magique. La dernière fois, ça m'est arrivé en 2022, même pas l'année dernière. J'ai rencontré c'était un homme. On a discuté. J'étais même pressé parce que je vais aller justement jouer. Mais bref, je m'arrête pour lui parler et j'avais trois pièces dont je m'occupais. Déjà un Molière, plus deux autres pièces. Eh bien, il est venu voir les trois. Il est venu voir les trois et il a adoré les trois. C'est devenu un ami depuis. Voilà. Il est venu en voir une au départ. Comme ça lui a plu, il est venu en voir une seconde. Ça lui a plu encore, donc il est venu voir la troisième. En deux mots, hein, faut le voir comme ça. Mais c'est ça aussi la magie du festival. Et il y a que le festival d'Avignon qui permet ce genre de rencontre et de rencontre pas uniquement humaine de personne à personne, mais déjà de rencontre d'un spectacle avec son public et d'un public avec un spectacle. De toute façon, chaque année, il y a toujours et allez, il y a 10 spectacles qui sortent du lot. Si je retire toutes les têtes d'affiche, si je retire tous les spectacles qui arrivent avec toute la grosse prod derrière et qui ont déjà leur public acquis, etc., vous avez sur les nouvelles créations, il y en a 10 ou 15 qui sortent vraiment du lot et qui font les tournées de demain et qu'on retrouve ensuite un peu partout en France. Voilà. Et
Ça
l'idée, c'est d'arriver à être un de ceux-là.
s'appelle stabilité temporaire, ça se joue au théâtre L'Optimiste. À quelle heure?
15h10 exactement.
Tous les jours.
15h10 tous les jours, sauf le mardi.
Sauf le mardi. Parfait. Bah, écoute, moi je voulais te remercier d'avoir parlé avec passion, avec tes tripes. C'est toujours très agréable. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Et c'est encore merci.
Et c'est moi qui te remercie de nous donner la parole et d'être là pour les artistes, pour le théâtre qui a bien besoin de ton aide et du public par ricochet.
Merci à toi.
Merci.